Il veut, c'est parce qu'à chaque semaine, Gary...
On est en train de régler la poutine, mais j'aime ça, c'est More Alive. More Alive, c'est la vie, et la vie, c'est le chaos. Donc, ouais. More Alive, c'est toujours un peu chaotique.
Parce qu'à 10h20, chaque vendredi matin, Gary fait le tour des codes de la semaine.
Oui.
Avec Nick et Pierre. Mais là, Pierre n'est pas là. Puis c'est Gary qui remplace, qui a besoin d'un troisième homme.
Je vais y aller.
C'est beau.
Mais il me joue des cotes, puis je les commande.
Ouais.
Ben oui, je vais y aller. Ils ont besoin de moi à quelle heure?
10h20.
Ça va coûter une bouteille de vin.
C'est beau.
Dans le blanc. Parce que moi, dans le Sauvignon.
Moi, ça me tentait de le faire, mais ça donne justement le matin.
Joke.
Le matin où je suis vraiment attendu à 10h à la maison.
Et les gens s'ennuient de toi.
Ouais.
Puis nous autres, on s'ennuie de Marc Bouchard. Salut, Marc.
Oui, Marc.
Comment ça va, Marc?
Hey, si on peut délier des bouteilles de vin comme ça, voici. Hein?
Toi, tu me donnes bouteille. Parce que.
Moi, je te donne bouteille.
Parce que t'es fin. Parce que tu m'as donné des conseils. Tu m'as comme proposé de me débarrasser de mon Jeep. Ce que j'ai fait. Et? Donc, merci.
Oui, ça, c'est une bonne décision.
Et je m'en porte que mieux, j'ai pas passé au feu un matin. Donc, voilà, non, ouais. Je suis vivant, je suis pas un grand brûlé. Très bon.
Ouais, mais tu t'es gâté un peu, par exemple.
Non, je me suis gâté un peu. Mais parlons, regarde, là, tu m'ouvres la porte sur les... Là, c'est parce qu'on a fait un clin d'œil vite comme ça sur les modèles hybrides dont les rappels nous disent « Eh oh, ça peut passer au feu ». J'ai vu passer ça en début de semaine, puis je veux t'en parler, tu l'as sûrement vu aussi, là. Puis, tu sais, c'est pas une chronique sur les rappels auto qu'on fait nécessairement, mais là, ça, c'est un rappel massif. ID4 Volkswagen rappelle des hybrides. Sensiblement, je pense, le même type de rappel que pour le 4XE Jeep, mais tu peux me corriger, Marc.
En fait, la plupart des hybrides branchables ont eu des difficultés à un moment donné ou l'autre. Évidemment, ils n'ont pas tous des dangers d'incendie. C'est arrivé, tu l'as dit, sur le 4XE. Le ID4, c'est un 100% électrique, mais il y a d'autres versions de d'autres véhicules qui sont effectivement rappelés. C'est souvent des hybrides branchables parce que c'est la conjugaison entre la batterie et l'autre qui pose problème dans certains cas. Et aux États-Unis, d'ailleurs, quand on regarde les ventes, les hybrides branchables sont en perte de vitesse depuis quelques mois, là, de façon marquée. Faut dire que les fabricants en font beaucoup moins qu'ils en faisaient, puis GM vient d'annoncer qu'ils abandonnaient littéralement. Donc, c'est pas le... On s'en va vers des hybrides traditionnels. Donc, des véhicules que t'auras pas besoin de brancher, puis qui ont des petites batteries, genre 1,1 kWh, qui sont suffisantes pour te donner un petit coup de main et aider à la consommation d'essence, mais qui te fournissent aucune autonomie électrique.
Où on s'en va dans la nouvelle mouture du Lightning, là? Comment t'appelles ça? Le REV?
Ouais, E-REV? Les prolongateurs d'autonomie.
Ouais.
En fait, c'est la différence de ça, parce qu'il faut l'expliquer, les gens on pose toujours plein de questions, c'est que vous avez un moteur électrique avec une batterie traditionnelle. Donc, c'est une auto électrique standard. La seule différence, c'est que vous avez un moteur à essence qui agit comme une génératrice. C'est comme si vous aviez votre génératrice dans la valise, finalement. Fait que le moteur à essence, lui, normalement, ne propulse jamais les roues. Donc, il force pas. Donc, il travaille toujours au même régime moteur le plus bas. Il vous garantit donc une consommation assez limitée, mais vous permet d'augmenter votre autonomie électrique. Et je le répète, c'est une technologie qu'on connaît bien parce que les trains fonctionnent comme ça. C'est les trains.
Sauf les trains d'hier, parce qu'ils sont toujours arrêtés.
Sauf le REM, qui, lui, a tendance.
Parlons REM!
Non! Mais c'est parce qu'on ne peut pas mettre le REM et fonctionner dans la même phrase.
Non, je le sais. Exact. Hey, cher hétéro aux auditeurs, vous pouvez poser vos questions. C'est déjà commencé. Dan Gravel, devant l'Éternel, va choisir vos meilleures questions. Les questions d'achat, les questions de location. Ça, c'est tranquille ces temps-ci. Du côté des concessionnaires, là, on est en lendemain de temps des fêtes. Le mois de janvier, c'est-tu le mois le plus mort dans les concessionnaires? Oui,
janvier, février, c'est les mois les plus morts. Puis actuellement, ben, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas trop qui s'en va où. On voit GM qui prend des décisions, qui coupe un chiffre de travail à Oshawa pour 700 emplois, puis 1200 emplois indirects. Ford qui n'a toujours pas ranimé son usine à Oakville. Stellantis qui se fait poursuivre par le gouvernement canadien parce qu'ils n'ont pas maintenu leurs promesses d'emploi et d'investissement. Bref, ça ne va pas super bien. D'un autre côté, là où ça s'améliore, c'est bon. Toyota qui nous annonce un investissement d'1,1 milliard.
À quelle place?
Au Canada. Leur usine de Cambridge puis de Woodstock.
C'est fluide, hein, la situation. Hein? On perd et on gagne au final. On verra bien quand Trump sera parti. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Là, explique-moi les Coréens. Il y a Carney et sa gang qui ont rencontré des Sud-Coréens. Explique-moi la patente, voir s'il y a des gains pour le Canada là-dedans. Là.
Pour le moment, il n'y a pas de gain officiel, mais il y a une entente qu'on appelle un MOU en anglais, là, un MOU, qui est en fait une espèce d'entente de principe où les deux pays se sont engagés à développer un potentiel d'investissement automobile au Canada. Tu sais, on a parlé beaucoup, là, ça, on a fait plein de gorges chaudes avec les automobiles chinoises qui vont arriver, 49 000 unités, tout le monde capotait. Je peux vous dire qu'il s'est vendu 222 000 autos coréennes l'année passée au Canada. Et il n'y a aucune usine de fabrication coréenne au Canada. Donc, je pense que là, il est à temps que la Corée arrive là. Et c'est vraiment un échange.
Oh, c'est bon, ça, ce que tu dis. Je n'étais même pas au courant. Donc, autrement dit, ce que tu viens de dire, c'est qu'on importe à 100 % les... On va se parler pour se comprendre. Les Kia et les Hyundai qui roulent, là, sont pas faites ici. Et ça serait peut-être pas qu'on en fasse.
Oui, il y en a qui sont faites aux États-Unis. Hein, et au moment où on n'avait pas de problème avec les États-Unis, ça allait bien. On amenait ça de Géorgie. Mais là, à cause des tarifs, ben, ils sont obligés d'amener leur voiture de Corée. Fait que ça finit par coûter plus cher. Fait que pour eux autres, c'est avantageux. En plus, le gouvernement est en train de négocier la fabrication de sous-marins avec lesquels il veut s'associer pour la Corée du Sud pour des achats. Donc, il a dit, écoute, on est prêt à t'acheter des sous-marins, mais en échange, il va falloir que tu viennes investir chez nous dans l'automobile. Et c'est là-dessus qu'ils sont en train de reposer une entente. Et si ça arrive, écoutez, ça serait un grand coup parce que effectivement, les Coréens, ils ont le vent dans les voiles, ils en vendent des autos, c'est complètement fou. Donc ça serait intéressant. Donc c'est vraiment un marché qui est... Écoutez, ça tire tout et bord actuellement. Oui, bon. Je serais bien, bien malvenu de vous dire comment ça va se terminer. La seule chose que je retiens, puis celle-là, je tiens à la mentionner, c'est que Toyota s'était engagé à dépenser 12 milliards au monde pour ces nouveaux investissements et ils ont garanti 1,1 milliard au Canada pour fabriquer des RAV4 hybrides. Alors, je pense que ça vaut la peine d'être souligné parce que 1,1 milliard, ça commence à être pas mal d'argent.
On y va avec les questions. Continuez d'écrire en passant. Vas-y, mon Dan.
Salut, Marc. Moi, je fais pas mal de routes de terre, de gravel. J'ai actuellement un Jeep Wrangler Rubicon Recon 2017 et je pense le changer pour un Gladiator Mojave. C'est une bonne décision.
Non. Oui, parce que le Gladiator est monté sur une infrastructure qui est plus solide. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, le Gladiator, c'est pas un Jeep Wrangler. C'est un Ram qu'on a mis une carrosserie de Wrangler dessus. Donc, le châssis est définitivement plus solide. Par contre, il coûte plus cher d'essence et il est nettement plus lourd. Donc, si vous n'avez pas besoin de la boîte, je ne vois pas l'utilité de changer parce que vous allez voir qu'il coûte pas mal plus cher à l'achat aussi. Donc, je vous dirais que c'est pas une nécessité dans votre cas... à moins que votre Rubicon vous pose problème. Parce que l'autre affaire, c'est que vous avez en main le Rubicon, qui est le top de ce qu'on peut faire en termes de véhicules hors route. Et là, le Mojave a des bien belles options, mais il n'atteint pas le même niveau que le Rubicon. Donc, il y a beaucoup de compromis à faire si vous allez vers le Gladiator. Par contre, il est beau, il est le fun à conduire. C'est un choix rendu là.
Diesel, Jeep, Volkswagen, vont-ils revenir?
Non. Le diesel, oubliez ça, ça ne reviendra plus. C'est en perte de vitesse partout, c'est en perte de vitesse en Europe. Puis avec tout ce qui se passe, écoutez, je suis obligé de vous rappeler qu'en Europe actuellement, là, on a relancé les voitures électriques. Là. On a vendu pour la première fois plus de voitures électriques que de voitures à essence au cours de la dernière année. Donc, il n'y aura pas de nouveautés au niveau des véhicules thermiques de cette nature-là et surtout pas du côté diesel qui a coûté un petit peu trop cher à des compagnies comme Volkswagen.
Je te pose une question vite comme ça. La Chine, oui. Tu sais, on deal avec la Chine pour des chars chinois. J'ai posé la question en ondes, mais je veux ta réponse là-dessus. Pourquoi on ne se tourne pas vers les Européens, les Français entre autres? Peugeot, Renault, on entend, Skoda, pour avoir... Citroën, exactement. Juste pour élargir le catalogue. Là, tu viens de parler de chars électriques. Il y en a qui vont se magasiner des chars électriques. Là, les chars chinois qui s'en viennent sont électriques. Pourquoi on négocie pas sérieusement avec les Européens, Marc?
Parce qu'actuellement, en fait, le projet est en cours d'étude à Ottawa. La grande difficulté, en fait, c'est que les Chinois sont prêts à adapter leurs véhicules pour les marchés globaux. Donc, en matière de sécurité, en matière... Tout ça, c'est fait, ça va être certifié, il n'y a pas de problème. Les Français ne sont pas certifiés pour rouler en Amérique du Nord. Parce qu'on a des normes différentes au niveau de la construction, au niveau de la sécurité. Donc, pour faire ça, il faut donc modifier les processus de certification. Il y a déjà des discussions en cours. Et il n'y a pas beaucoup de manufacturiers français qui ont les capacités de production. et l'argent pour venir s'implanter ici et développer des nouveaux réseaux. Ça coûte cher faire ça, puis il n'y en a pas beaucoup qui ont manifesté l'intérêt. Peugeot devait arriver en 2026, ils nous ont annoncé ça en 2020, et finalement, tout ça est mort dans l'œuf, on n'a jamais entendu parler. Donc, le gros problème, il est là, mais je peux vous garantir qu'actuellement, il y a un projet formel sur la table à Ottawa, où on étudie la possibilité d'importer des voitures européennes, donc d'ajouter des européennes à notre catalogue de véhicules.
Quelle marque, tu le sais pas?
Ben, en fait, on sait qu'il y a Renault, en fait, là-dedans.
Tu m'apprends ça.
Et Peugeot. Et Peugeot s'est toujours montré intéressé par le... Mais, encore une fois, je vous rappelle que ce sont des marques qui souvent appartiennent ou ont des partenariats avec d'autres marques existantes. Donc, c'est peut-être là que ça va jouer, finalement.
Est-ce qu'il existe encore un char? Tu sais, un char, tu l'achètes flambant neuf. Il est tout petit, manuel, mais il coûte rien.
Non. Écoutez, il reste, je pense, 4 modèles de véhicules qui sont en bas de 25 000 $ moins de 8 % des véhicules... Non, c'est moins de 6 % maintenant des véhicules vendus sont manuels. Et ça inclut les camionnettes. Vous parlez d'une licorne, littéralement. Ça n'existe plus.
Et il y a quelqu'un qui m'envoie, puis on va terminer là-dessus. Dans le Wall Street Journal ce matin, paraît-il qu'il y a quelqu'un qui a essayé un char électrique chinois... I test drove a Chinese EV. Now I don't want to pay American cars anymore. I don't want to buy an American car anymore. Mais tu l'as essayé.
Mais si vous lisez,
essayé des chars chinois. Oui.
Si vous lisez toutes les critiques de tous les journalistes partout, ils ont même fait. Écoutez, ils ont fait un test en Norvège ou en Suède, là, je ne sais plus trop, où sur l'autonomie en eau froid. C'est à peu près ce qu'on a chez nous là. Ben les chars chinois sont les trois meilleurs. En termes de perte d'autonomie. C'est-à-dire que c'est eux autres qui en perdent le moins puis qui durent le plus longtemps, malgré des températures à moins 30.
Ça, c'est un pitch de vente, là.
Puis on dit que même les Allemands sont pas capables d'accoter l'innovation au niveau des suspensions que les Chinois ont fait.
Ah, ouais.
Ah, non, c'est ça. Ils sont en avance de 10 ans sur tout le monde, à bien des points de vue au niveau technologique. La seule question, c'est qu'évidemment, est-ce qu'ils vont nous amener ces autos-là parce que probablement, il y aura un coût relié à ces innovations-là ou on va nous amener des autos pas chères qui vont répondre à ce qu'on a ici? Ça, c'est la grande question qu'on va savoir au cours des prochains mois.
Marc, bon week-end. Merci encore.
Merci. Bye-bye.
Bye. Toutes les plateformes, Marc est là, le gars de char avec son gars ou pas, c'est partout, me ramure.